Merci d'être avec nous et de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Pascal Laurent. Bonjour Pascal Laurent.
Bonjour Serge.
Vous allez bien ?
Très très bien.
Vous n'êtes pas trop grossi là, ces derniers temps ?
Attention, mais c'est pas évident.
Pascal Laurent, vous êtes professeur à l'Université d'Avignon, professeur en physiologie.
C'est exact, oui.
On peut expliquer ce que la physiologie rapidement ?
Alors la physiologie, c'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas. J'emprunte souvent cette phrase à un anatomiste du XVIIe siècle, Leeuwenhoek, qui a créé le microscope justement et qui à travers les observations microscopiques a vu des cellules en mouvement. Et pour lui, la physiologie, finalement, c'est l'anatomie en mouvement. C'est D'accord. expliquer, finalement, le fonctionnement des organes. Alors, le fonctionnement normal et le fonctionnement qui peut être pathologique.
D'accord. Les organes et les membres, enfin...
Voilà, exactement. Ouais. Tout ce qui bouge, tout ce qui respire.
Voilà. Donc, en mouvement, c'est pas mal, oui.
Oui, c'est ça, exactement.
Ça, on explique. Ouais. Alors, vous l'avez sorti il y a quelques temps, peut-être, ce livre.
Alors, le bouquin, oui, je l'ai sorti au mois d'août.
D'accord. En fait. Vous nous présentez l'invraisemblable consultation diététique de Madame Gaïa Globésité.
C'est ça.
On aurait pu faire plus simple, quand même.
C'est ça.
Alors, mais on comprend vite Gaïa à la Terre, évidemment.
Oui.
Et Globésité, si j'ai bien compris, c'est un terme créé par l'OMS.
C'est ça, oui, tout à fait, pour parler de l'obésité, de la pandémie d'obésité mondiale. Mm-hmm. Donc, ils ont inventé ce terme qui veut tout dire, en fait, globe et obésité.
Oui, globésité. C'est global, voilà. Donc surtout le globe.
Ouais, okay.
Et c'est vrai que c'est parce qu'on a l'impression que dans certains pays, quand même, on ne mange pas assez, ni assez de sucre, donc c'est pas du tout le problème.
Ouais.
C'est-à-dire sur la masse globale d'humains.
Ouais.
Il y a une majorité de gens qui deviennent obèses.
C'est ça. Donc on souffre de plus en plus de malnutrition. Une grande majorité des terriens sont mal nourris. Mmh. Et dans la malnutrition, et ben effectivement, il y a la dénutrition. Et puis vous avez la surcharge pondérale dans laquelle on trouve l'obésité.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est dans une phase où l'obésité dépasse la dénutrition. Et c'est de la malnutrition quand même.
D'accord. Donc la moitié du monde meurt de faim et l'autre de trop bouffer.
Presque la moitié, oui. Ouais, c'est ça.
C'est impressionnant.
Ouais, tout à fait.
Donc votre livre, l'invraisemblable consultation diététique de Madame Gaïa Globésité, vous êtes parti un petit peu loin quand même. On imagine Madame Gaïa, qui est donc la Terre, en consultation chez son diététicien.
C'est ça. J'ai eu la surprise de la voir arriver dans mon cabinet.
D'accord.
Donc j'étais un petit peu dépourvu quand je l'ai vu arriver. Mais après, je me suis dit, pourquoi ? C'est une patiente comme une autre, donc je l'ai fait rentrer dans mon cabinet je m'y suis pris je dirais comme tout patient qui viendrait me voir, c'est-à-dire faire un bilan et puis essayer de voir un petit peu les préconisations, comment on peut l'aider pour s'en sortir. J'ai bâti mon bouquin justement de cette façon-là en fait
C'est intéressant parce que ça peut très bien être à la fois une dame en surpoids et à la fois la Terre, parce que les deux se rejoignent, vous expliquez de façon globale justement qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en vient là et pourquoi l'obésité est de plus en plus importante dans le monde.
Ouais.
Et en même temps, cette dame essaye de se soigner.
Absolument, oui, parce que derrière, c'est plein de complications. En fait, l'obésité en elle-même, la surcharge pondérale n'est rien. On accepte, aujourd'hui, on est dans une société où on accepte les gens avec une surcharge pondérale. On le voit très très bien à la télé, dans les médias, etc. etc. Alors, c'est vrai qu'elle a...
On le voit chez les enfants aussi.
Aussi, oui. Il y a quand même une stigmatisation chez les enfants, ils sont durs entre eux quand même, néanmoins le changement de corpulence ne serait pas un problème s'il n'y avait pas derrière les complications physiopathologiques.
D'accord.
Et derrière, vous avez les complications, le diabète, la maladie cardiovasculaire, les complications ostéo-articulaires, les cancers aussi.
Parler des maladies auto-immunes également.
Alors,
la deuxième phase avec les produits chimiques.
C'est ça,
etc.
La problématique, c'est quand on regarde un petit peu au niveau mondial, mais même en France, finalement, on regarde qu'en parallèle avec une augmentation de la prévalence de l'obésité, on a une prévalence qui est importante des pathologies auto-immunes, du diabète, de l'autisme également. Et tout ça, il y a un facteur qui est commun finalement. Ce sont tous les stress environnementaux qui nous entourent, toxiques, nutritionnels, bien sûr, avec le sucre et aussi psychologique.
J'ai vu votre article dans le Dauphiné chez nos confrères, et vous dites dans cet article que la proportion d'enfants obèses est passée de 3% en 95 à 15% en 2022.
3% en 65.
En 65 65.
Ouais.
Ah oui, à 15%, ça fait quand même 5 fois plus, quoi.
Et oui, et quand on regarde bien, 15% dans une classe, bah, vous avez, sur une classe de 30, vous avez 33 gamins qui sont en surpoids ou en obésité. Et ça, j'ai pu le vérifier il n'y a pas très très longtemps, notamment lorsqu'on a organisé, lorsqu'a été organisée au niveau national la fête de la science. Avec l'université, on a fait des ateliers avec des jeunes qui venaient d'école primaire par groupe de 10. Et dans les groupes de 10, il y avait effectivement un, voire deux enfants en surcharge pondérale.
Alors dans votre livre, l'invraisemblable consultation tététique de Madame Gaillac, l'obésité, il est dur à dire quand même. Il y a trois rendez-vous. Ça se passe sur une centaine d'années en fait.
C'est ça, sur 100 ans, ouais.
Le premier, c'est l'année dernière, en 2022.
C'est ça.
Et là, elle va pas bien du tout.
Non, elle est très malheureuse.
Et le premier constat, là, c'est quand même le sucre.
Oui.
Cette première partie, là, est consacrée au sucre. Oui. Vous pensez vraiment que c'est un fléau
Oui.
Ouais.
Oui, c'est
ça n'existait pas avant, dans les années 40, 50
Non. Non, je pense que ça s'est vraiment développé finalement après la Deuxième Guerre mondiale avec les Trente Glorieuses. Bon, encore là, on était quand même, je dirais, très 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 actifs en fait. Hein. Les activités n'étaient pas encore sédentarisées et le sucre finalement la consommation en sucre pouvait être compensée par l'activité physique. Hein. Mais néanmoins, on consommait certainement beaucoup moins de sucre qu'on en consomme encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, il est caché en plus.
Oui, c'est ça le problème en fait. Hein. La problématique, c'est la forte disponibilité finalement en sucre, notamment dans les produits industriels, ultra transformés.
Les gâteaux, tout ce qu'on achète.
Voilà, exactement. Exactement.
Et il y en a même dans les endroits où on n'imagine même pas. Ouais. Aioli.
Absolument, la charcuterie. Vous pouvez retrouver dans la charcuterie également. Alors il y a ça, et surtout aussi, c'est ce que l'on oublie aussi quand on avale ces produits-là, c'est que l'assimilation intestinale est beaucoup plus rapide, en fait, hein, parce que le produit ultra transformé, c'est un produit, je dirais, comme artificiel, en fait. Hein. On met des ingrédients les uns à côté des autres. Il n'y a pas de matrice finalement alimentaire comme on peut l'avoir dans un vrai dans un vrai aliment, et quand ça vous tombe dans l'estomac, et ben c'est tout de suite désagrégé très très facilement. Il y a très très peu de digestion, et il y a très très peu, et ça passe très très facilement dans l'intestin.
Pour qu'on atteigne tout le temps, c'est ce que vous voulez dire?
Et ben on peut effectivement, parce que une fois que ça passe dans l'intestin, c'est très très vite très très facilement assimilé par la paroi intestinale, et on se retrouve finalement avec du glucose dans le sang, avec une hyperglycémie très très rapidement.
Voilà. D'accord. On a vu quelques études également sur les pommes, enfin sur les fruits et légumes qui sont beaucoup moins riches, nourrissants aujourd'hui qu'il y a 60 ans en arrière.
Oui.
Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ça. Donc c'est pareil, on mange que des aliments qui ne nourrissent plus carrément.
Je dirais pas tout à fait ça. Hein. C'est assez. Alors c'est vrai, j'ai vu un certain nombre d'études là-dessus. Alors ça peut être vrai par rapport à ce qu'on appelle les micronutriments, comme les oligoéléments, les vitamines ou encore les minéraux. Et encore, c'est pas forcément très très reconnu en fait. Hein. Mais par contre, sur les macronutriments, il y a pas une grande différence si alors quand j'entends macronutriments, c'est justement les sucres ou le fructose que l'on peut trouver dans des fruits, hein, que vous prenez l'exemple de la pomme. Ça reste quand même nutritif, hein, pour l'individu. Vaut mieux manger une pomme qu'un sachet de gâteau sec, hein, par exemple, hein, que ça soit à 4 heures pour le goûter du gamin.
Ou ces petits trucs qu'on fait, là, les morceaux de pommes justement séchés et sucrés, peut-être ça existe aussi. Ça,
oui,
on a l'impression que ça fait du bien, mais en réalité c'est pareil.
C'est une vraie saloperie.
Oui, si vous le dites. Donc on a ce problème avec le sucre. C'est vrai que dans les années, je sais plus, après la guerre, hein, je crois, il y avait toute une campagne de publicité sur le sucre. On peut même en trouver, hein, sur Internet, il suffit de taper publicité ancienne sucre, et on voit des gens grimper les escaliers avec marqué avec le sucre, j'ai la pêche, ou ce genre de choses. Donc il y a quand même une campagne, une volonté politique de nous faire manger du sucre.
Oui, tout à fait. Mais la problématique, elle était pas la même qu'aujourd'hui, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. En 65, il y avait 3% d'obésité chez les gamins. Donc imaginez en 45 ou en 50, hein, il y en avait encore certainement beaucoup moins, surtout après la guerre. Mais comme je vous le disais, hein, la problématique aussi du surpoids, c'est une problématique de sédentarité en fait. Hein. Ouais. Et il y avait une étude en 90 qui avait été faite par les Anglo-Saxons qui montrait effectivement une augmentation de l'obésité, mais paradoxalement, on avait une baisse finalement de la consommation, de la consommation en calories et en matière, notamment en matière grasse et en sucre. Mais par contre, ce que l'on remarquait de cette étude qui était faite entre 1950 et 1990, c'est que l'obésité était en lien direct avec le nombre d'heures passées devant les écrans.
D'accord. Vous voyez, bah là, donc, on est en plein dans l'actualité.
Voilà,
parce que...
exactement.
Alors, je sais plus combien parle. Je crois que c'est 6 heures par jour, non, sur certains.
Bah, certains gamins. Oui. J'ai vu des enfants qui passaient facilement 5 ou 6 heures devant les écrans par jour. Quoi.
On en a même vu dans les pays asiatiques mourir.
Ah oui.
Devant l'écran. Il y a quelques années, ça avait fait une esclandre parce que ce gosse était resté, je sais pas combien d'heures, et qu'il avait finalement resté collé. Ouais. Pour en revenir, Madame Globésité, elle tourne pourtant.
Ah oui.
Donc, elle est pas si sédentaire que ça. Par contre, elle aime beaucoup le Coca.
Oui.
Non, le Fanta, pardon.
Le Fanta.
Oui, oui.
Ouais.
Elle en avait pas là pendant.
Ouais,
la...
ouais, voilà. Ouais. Et ça, vous savez, alors, je l'ai pas sorti de mon imagination. Je l'ai réellement vécu. En fait, hein, une femme, une patiente qui vient me voir et qui était en sueur avec plein de complications diabétiques, etc. Et en plein milieu de la consultation, elle me demande si elle peut boire. Et effectivement, je lui dis ben oui, désaltérez-vous, il y a pas de souci. Et elle sort de son sac une bouteille de Coca.
Donc l'histoire de Madame Globésité, c'est du vécu.
C'est du vrai. Il y a quelque chose de vécu. Hein, et,
on sait que c'est un fléau de toute façon, ces sodas.
Absolument. Ouais. Donc ça vous montre effectivement l'addiction que l'on peut, que certaines personnes peuvent avoir par rapport au sucre, parce qu'elle était au courant, elle était suivie par son médecin généraliste, un diabète, le sucre interdit à éviter, etc. Surtout le sucre rapide comme celui-ci, voilà. Mmh. Et malheureusement, beaucoup de gens, enfin. Je ne vais pas dire beaucoup, mais on a du mal, effectivement, pour certaines personnes, notamment les personnes qui souffrent, ça on l'a remarqué également à travers les études, qui souffrent d'émotions négatives, en fait, hein, d'ennui, de dépression, etc., etc., peuvent effectivement avoir un effet addictif plus prononcé avec des envies compulsives de sucre.
Oui, ça me rappelle, on parlait du dernier bouquin de Houellebecq, Sérotonine.
Oui.
Elle apparaît, la sérotonine, dans votre livre aussi.
Oui, tout à fait.
C'est l'hormone du bonheur. Et donc, elle est captée ou elle se développe pas à cause de notre alimentation?
Non, là c'est complètement imaginaire, hein, ce que je raconte là. Ouais. Ça reste un roman, un conte philosophique.
Oui, d'accord.
Hein, mais j'imaginais effectivement une, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un roman, une consultation qui se poursuit sur 100 ans.
Ouais.
Et là, quand on parle de la sérotonine, on est en 2122,
d'accord,
avec des aliments qui sont complètement ultra transformés, chimiques, artificiels, etc. Avec, j'ai inventé effectivement des imprimantes 3D pour créer des produits de consommation complètement artificiels. Et là, j'imaginais effectivement que là-dedans, il n'y avait pas suffisamment de sérotonine, effectivement, qui puisse être synthétisée ou passer la barrière cérébrale chez l'homme ou l'enfant, et créer effectivement un syndrome de dépression, puisque la sérotonine, effectivement, est considérée comme le neuromédiateur du bonheur.
L'hormone du bonheur,
voilà,
oui,
c'est ça, exactement.
Entre guillemets.
Mais c'est complètement imagé.
Il n'y a rien de
prouver là-dedans.
Alors par contre, il y a aussi dans votre livre une partie un peu complotiste, comme le dit Madame Globésité.
C'est ça, ouais.
Vous supposez, enfin je ne sais pas si vous supposez ou si vous avez des éléments concrets.
Allez-y.
Que certaines études sont cachées.
Pas du tout, non, c'est complètement...
C'est inventé aussi.
C'est inventé aussi,
d'accord.
Oui.
Parce que je me demandais quand même.
Non.
Donc on avait le sucre en premier, dans la première consultation, et la deuxième consultation sont les produits chimiques.
Oui.
Mais c'est vrai que là, on en a de plus en plus, là par contre, c'est une vérité.
Oui,
qu'on remplace certains éléments... par des poudres dans les fabrications.
Oui, c'est ça. Et mais c'est surtout, alors il y a ce qu'on appelle les émulsifiants, il y a les sucres ajoutés, il y a les acides gras, il y a certains autres additifs comme les édulcorants par exemple. Hein, on croit que les édulcorants sont sans danger pour la santé, mais en fait on s'aperçoit, il y a récemment une étude épidémiologique qui est sortie par Nutrinet Santé, c'est une équipe française, hein, justement, qui a montré que les édulcorants n'étaient pas sans risque pour la santé. Et alors, quand on le consomme à forte concentration et d'une manière chronique, et puis avoir un effet effectivement sur le diabète ou le syndrome métabolique, en fait, hein, donc il y a oui, effectivement,
ça s'appelle comment, c'est l'aspartame, hein, je crois, le principe,
c'est ça,
voilà.
Oui.
Et je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il paraît qu'aux États-Unis certains pilotes n'ont pas le droit d'en consommer parce que ça crée des problèmes dans le cerveau.
Absolument.
Il paraît que là on a un énorme scandale international qui couve avec ces édulcorants.
Ouais.
Peut-être c'est pas pareil avec ceux qui sont à base de plantes comme le stevia ou ces choses-là, je sais pas si...
Alors je pourrais pas vous dire exactement, mais après tout dépendra de la tout peut dépendre de la concentration effectivement qui est consommée chaque jour et d'une manière chronique en fait.
Alors madame Globésité, Gaïa
ouais.
L'héroïne de votre vie qui est la Terre et en même temps une dame un peu en surpoids, donc elle vient trois fois. La deuxième fois donc on parle pas mal des produits chimiques et tout ça. Mais la troisième fois elle va quand même beaucoup mieux.
Oui.
Donc vous donnez quand même des petites clés dans votre livre pour
oui.
Parce que c'est quand même impressionnant et puis c'est inquiétant.
C'est très inquiétant, ouais. Ouais. La... Alors je sais pas si je dois livrer la fin du bouquin parce que
non.
Effectivement,
ouais.
Oui. C'est, je pense que c'est à découvrir. Alors ce que je peux dire, c'est que bon, ce que je dis dans le résumé, hein, Gaïa est heureuse dans la troisième et dernière consultation parce qu'elle s'en est sortie. Hein,
oui, voilà.
Elle s'en est sortie. Par contre, les terriens, c'est beaucoup moins drôle pour eux, quoi, en fait. Hein.
Il y a la petite histoire pour conclure. J'aime bien ce que vous avez mis en introduction du livre, la citation d'Hubert Reeves.
Oui.
Vous pouvez la dire ou vous voulez que je la dise ?
Non, allez-y, puisque vous avez le livre.
Donc c'est l'histoire de deux planètes, une planète blanche et la planète bleue hein, qui se rencontrent, et la planète blanche qui dit à la planète bleue en s'inquiétant, tu n'as pas l'air d'aller fort, dis-moi. Et donc la planète bleue lui dit, ben écoute, je me sens vraiment pas de trac, le docteur m'a dit que j'avais attrapé l'humanité. Et donc la planète blanche lui dit, ah c'est ça, ben t'inquiète pas, je l'ai eu moi aussi, mais c'est très désagréable, mais ça disparaît tout seul.
C'est
Hubert Reeves. On salue au passage, parce qu'il nous a quitté il y a quelques années. On peut le trouver où ?
Ben, okay.
Quelques temps, même pas quelques années, quelques semaines, Hubert Reeves.
Il est mort il y a pas très longtemps.
Oui, j'ai dit quelques années, mais c'est il y a quelques
semaines.
Oui,
il y a c'est cette année, en fin d'année. Ouais.
On peut le trouver où, votre livre ?
Alors, vous le trouverez en ligne déjà, hein, sur à la FNAC, Cultura. Par contre, vous le trouverez à l'espace culturel
à Leclerc,
Les Angles. Ouais,
d'accord.
Ouais.
Donc, ça s'appelle L'invraisemblable consultation diététique de Madame Gaïa Globésité par Pascal Laurent, aux éditions Les Trois Colonnes.
C'est ça.
Écoutez, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci de m'avoir invité.
Merci de nous protéger. On grossira moins vite avec vous, surtout à l'approche des fêtes. Bonne continuation, à bientôt.
À vous aussi, merci, au revoir.